J'aimerais que vous présentiez Dreyer aux auditeurs, bon, parce que c'est un cinéaste dont le nom est très connu à cause de sa Jeanne d'Arc notamment. Il est connu donc comme un des passages obligés de l'histoire du cinéma, mais c'est un homme assez secret sur lequel en fait on ne savait pas grand-chose avant l'énorme biographie que vous avez consacrée à Dreyer. Alors, qui était Dreyer ?
Mais Dreyer, pour le situer, est né en 1889 et n'a pas commencé tout de suite à faire du cinéma. Et il a eu une enfance extrêmement douloureuse et très difficile. Il est né d'une ce qu'on dirait aujourd'hui une fille-mère, c'est-à-dire une jeune femme qui l'a conçue en dehors du mariage. Elle était suédoise, elle habitait dans le sud de la Suède. Elle était gouvernante dans une grosse ferme, où je suis allé d'ailleurs, et on conserve toujours son souvenir. Et elle a fait ce qu'on appelait à l'époque un faux pas. Elle a conçu un enfant, probablement avec le patron, avec son patron, et n'a pas osé le mettre au monde là sur place. Elle est allée à Copenhague pour le mettre au monde son enfant. Elle est repartie en Suède 15 jours plus tard. Et le pauvre gosse est resté là, a été pris en charge par différentes familles, 6 ou 7 familles en l'espace d'un an et demi. Et finalement, il a été adopté par une famille de typographes, qui était la famille Dreyer, qui lui a donné son nom. Mais il n'a pas connu à l'intérieur de cette famille toute l'affection, la chaleur affectueuse dont il aurait eu besoin après tous ces déménagements et tous ces transbordements au cours de ses premières années. Et il a gardé une espèce de rancœur terrible vis-à-vis de ses parents adoptifs, qui pourtant, certainement, à mon avis, ont fait ce qu'ils ont pu pour lui donner une éducation vraiment très convenable. Lui faire apprendre les langues et le pousser jusqu'à un diplôme qu'on appellerait en France le brevet supérieur.
Au cours de vos recherches sur Dreyer, vous allez découvrir quelque chose qui probablement est fondamental sur toute la thématique de l'œuvre, qui effectivement on pourrait se demander pourquoi dans cette œuvre la femme apparaît toujours, presque toujours comme une martyre, et dont, enfin ce martyre en passe souvent et presque toujours par le sacrifice du corps, ou la mutilation du corps. Alors il y a là un traumatisme qu'il va découvrir, que vous avez mis en lumière.
Alors ce qui s'est passé, c'est que sa mère, 2 ans plus tard, a récidivé, si j'ose dire, c'est-à-dire a encore une grossesse hors mariage, et n'a pas eu le courage de la mener à bout. Elle n'a pas voulu repasser par les affres qu'elle avait connues 2 ans plus tôt. Elle a essayé de se faire avorter. Elle en était déjà au 7e mois de grossesse. Elle employait un procédé absolument barbare, dont elle avait eu probablement la recette par la vieille femme de son entourage. Elle s'est mise à avaler des bouts d'allumettes suédoises, des allumettes au phosphore. Elle s'est obligée, 3 jours de suite, d'avaler une demi-botte de ces grosses allumettes suédoises qu'on connaissait à l'époque. Avec résultat, c'est qu'elle s'est empoisonnée, le foie était en complète décomposition, elle est morte au bout de quelques jours dans des souffrances terribles. Alors il y a évidemment eu immédiatement intervention de la police, on se demandait s'il n'y avait pas eu une tentative d'assassinat, si elle n'avait pas tenté elle-même de se détruire, de se suicider, ou si c'était un accident. Alors on a fait l'autopsie, on l'a charcuté, coupé en morceaux, on a envoyé des prélèvements d'organes qu'on a envoyés à Stockholm dans un laboratoire mieux équipé, et finalement elle a été enterrée presque 2 mois après le jour de son décès. Alors évidemment, Dreyer n'a pas su tout ça et quand il était tout petit, il a simplement su que sa mère était morte à l'âge, quand il avait lui-même 2 ans, mais à l'âge de 17-18 ans, il a rompu avec sa famille adoptive, presque définitivement, et il a été faire son enquête lui-même en Suède pour savoir un petit peu qui était sa mère et dans quelles conditions elle était morte. Et il a appris cette vérité absolument atroce.
Vous dites que la police au départ a enquêté, mais c'est une affaire qui, du point de vue des institutions, va au-delà. Puisque par exemple, sur l'enterrement de Madame Nixon, puisque c'était son nom, Il va y avoir l'enjeu aussi de l'Église. Faut-il, si elle s'est suicidée, un enterrement religieux ou bien la nécessité aussi d'en faire appel à la médecine et à la religion au-delà de l'enquête strictement judiciaire. Et je crois que quand on voit Ordette, par exemple, on retrouve là, autour du personnage de la femme, il me semble, un des enjeux qui a probablement prévalu à cette enquête concernant, à tout le contexte concernant le décès de la mère de Dreyer.
C'est certain que c'est une espèce de constante qu'on retrouve dans tous ces films. Tous ces films sont construits sur l'opposition entre la femme solitaire, isolée, qui a essayé d'être fidèle à ses intuitions, à ses sentiments, et qui se heurte à une société intolérante, une société en général, une société d'hommes. Alors, évidemment, le prototype de cette opposition-là, c'est Jeanne d'Arc, qui est la martyre, qui, dans le film de Dreyer, est affronté pendant une heure et demie à un tribunal uniquement composé d'hommes. Alors, tout le cinéma de Dreyer est construit sur cette opposition entre l'individu opposé au système. Et d'ailleurs, le système, dans tous les types de systèmes, le tribunal, la société en général, les institutions ecclésiastiques, qui tous sont représentés précisément par des hommes. La société masculine patriarcale.
Avec un poids de la religion très particulier dans la société d'où il était issu. Vous pourriez nous en dire deux mots ?
Oui, mais je crois que ce n'est qu'un cas particulier et que Dreyer a essayé de généraliser le drame de sa mère parce qu'il a fallu, évidemment, qu'il se raconte des histoires à lui-même. Il a essayé de comprendre pourquoi ma mère a été amenée à m'abandonner. Alors évidemment, il ne pouvait pas culpabiliser la mère. Il a fallu au contraire qu'il essaie de l'innocenter. Si sa mère, Josephine Nielsen, l'a abandonnée quand il avait 15 jours, elle ne l'a pas fait de gaieté de cœur. Elle l'a fait malgré elle, parce que la société d'alors n'acceptait pas qu'on aime et qu'on ait des rapports érotiques, des rapports amoureux, en dehors du mariage. Alors, c'est-à-dire que la mère de Dreyer, à ses yeux, a été tout simplement une victime. Et c'est ça, justement, le thème central de tous ses films, la femme victime d'une société intolérante.
Extrait de la bande-son du film Gertrude. Dreyer, bon, ça va du président en passant par Jeanne d'Arc et avant d'arriver à la période de vampire. Comment vous pourriez caractériser l'élaboration de l'écriture de Dreyer, en tout cas au moment du muet? Pourquoi il innove?
Vous savez, c'est très difficile de parler d'un style de Dreyer parce qu'on a l'impression que chaque fois qu'il a commencé un film, il a trouvé son propre style. C'est le sujet qui l'a amené à créer son style. C'est un homme qui a été en permanence en recherche, qui a créé toute sa vie des voies nouvelles et qui a expérimenté en permanence. Il ne s'est jamais répété. On peut dire que tous ses films, d'une certaine façon, sont des prototypes. Ils ne se ressemblent jamais. Alors, c'est très difficile de parler d'un style de Dreyer. Je crois que ce qui fait l'unité de son œuvre, c'est la thématique, le fait que d'une manière presque monomane, il tourne en permanence autour du même thème, ce thème justement de la femme sacrifiée, paumée, violentée, violée même dans certains cas, et qui n'arrive pas à maintenir son identité dans une société qui n'est pas faite pour elle.
Il y a quelques exceptions d'une certaine manière. Enfin, il y a des films étranges peut-être qui se glissent là-dedans. Je pense à Michael.
Michael, c'est un film que je n'arrive absolument pas à situer, à placer par rapport aux autres, parce que la thématique est d'abord très différente, où là justement on n'a pas une femme victime, au contraire une femme qui est la femme forte, la femme fatale.
Ce qui est étonnant dans Michael, c'est que c'est le rapport entre les deux hommes qui détermine.
Alors je crois qu'il a tourné ce film comme une espèce d'amende honorable vis-à-vis de son père adoptif, qui était un très très brave homme et qui était mort un ou deux ans auparavant. Alors Dreyer a compris que ce père adoptif finalement ne lui avait jamais voulu de mal, qu'il s'était laissé faire par sa femme qui était vraiment une femme forte, du type des femmes fortes qu'on trouve dans les films de Dreyer, un chameau, quelqu'un, une femme qui tenait les rênes, qui portait la culotte. Oui, c'est ça, Dame Marguerite. Et c'est une espèce d'amende honorable au père et de reconnaissance tardive, posthume, de tout ce qu'il avait fait pour son fils. C'est comme ça que je l'interprète, moi, à partir des données personnelles et intimes de la vie de Dreyer. Et c'est évident que ce film est totalement différent de tous les autres.
Donc, la longue lignée des femmes victimes, on pourrait revenir donc à Jeanne d'Arc, au personnage d'Anne dans Dies Irae, au personnage d'Inge, c'est cela, ça s'appelle Inge, je crois, dans Inger, dans Ordet, et au personnage de Gertrude. Alors, ces quatre femmes-là, de Jeanne d'Arc à Gertrude, quelle évolution, quelle...
Alors, on peut dire que jusque Vampire, tout l'univers de Dreyer est un univers en noir et blanc, dans ce sens qu'il y a deux camps très très tranchés. Il y a le camp des hommes, qui représente les forces de mort, la loi, la tyrannie, l'oppression, et en face de ça, le monde des femmes, qui représente au contraire la vie biologique, les sentiments, la nature, toute la positivité. Mais à partir de Vampire, il commence à mettre un point d'interrogation à cette opposition-là. Et l'opposition-là, cette opposition n'est plus tellement, tellement évidente.
Vampire est une femme.
Et c'est ça, justement, oui. Alors on se rend compte qu'il commence à remettre en cause ce monde bien tranché où il oppose les bons aux méchants. Alors, les personnages féminins de ces derniers films, de toute sa période parlante, ils sont beaucoup plus ambigus, beaucoup plus compliqués. Ils ont évidemment toujours la positivité de ces héros féminins, mais en même temps, on commence à remarquer que ça n'est plus aussi tranché, ça n'est plus aussi simple que ça l'était auparavant. Et un personnage comme celui de Gertrude est, à mon avis, assez ambigu.
Dans quel sens ?
Mais il la présente comme une femme qui vit dans le rêve, qui n'a pas suffisamment de contact avec la réalité. Il a d'ailleurs lui-même ajouté certaines répliques au dialogue de la pièce de Söderberg, à partir de laquelle il a réalisé son film, pour montrer justement qu'elle s'envole dans les nuages, qu'elle n'a plus les pieds sur terre, qu'elle est une idéaliste, dans le mauvais sens du mot, et que sa conception de l'amour est tellement irréelle qu'elle n'arrive jamais pratiquement à pouvoir le vivre, et que la seule solution pour elle, c'est de se retirer finalement dans la solitude.
C'est cette, ce personnage, bon, vous semblez dire que Dreyer en fait, l'a construite avec une certaine ironie, c'est-à-dire en chargeant un peu. Et moi, je l'ai plutôt souvent prise, hein, je l'ai bien vu au moins 30 fois, Gertrude, au premier degré, c'est-à-dire une utopiste, une idéaliste absolue, amoureuse des contenus totaux de l'amour, c'est-à-dire du possible impossible, en fait, de l'amour. Et en cela, moi, je trouve qu'elle est superbe. Alors, cette ironie, je ne sais pas comment vous voyez ce qu'elle passe dans ce film.
Oui, c'est vrai qu'elle est, elle est admirable dans le sens justement où elle représente, elle symbolise l'utopie. C'est-à-dire un idéal qui est absolument irréalisable, en tout cas sur cette terre. Et, ou en tout cas dans la société telle qu'elle est conçue actuellement, où les hommes sont obligés de gagner leur vie, sont obligés de trimer, sont obligés de travailler pour gagner la vie de la famille.
Une grande bourgeoise, ce qui est la seule héroïne de Dreyer à en être une.
C'est ça, oui, oui. Alors, Dreyer a lui-même avoué qu'il n'acquiesçait pas 100% à son héroïne. Il a essayé d'être le plus loyal possible vis-à-vis d'elle et de la représenter telle qu'il l'avait conçue à partir de la pièce de Söderberg. Mais il a avoué dans différents entretiens qu'en fin de compte, elle était un petit peu une enquiquineuse. Alors, c'est un petit peu méchant de dire ça, mais... Dreyer lui-même était un homme qui travaillait énormément et qui était obligé de bosser et de gagner la vie aussi de sa famille et qui a eu des tranches de vie et qui ont été vraiment très difficiles. Il y a certains moments où il a vraiment vécu dans la misère.
Vous dites dans votre biographie, Dreyer a été dans le besoin matériel. Mais le personnage est traité comme un personnage, je dirais, mythique et qui est quasiment mis sur un piédestal. Il y a quelque chose d'ailleurs qui est étonnant, c'est la manière qu'il a de la faire se détacher, notamment des statues. Il y a un rapport, je trouve, il y a un traitement quasiment minéral du personnage de Gertrude.
Ce qui est très beau dans le personnage de Gertrude, c'est qu'elle maintient jusqu'au bout sa personnalité, son identité. À la différence de ces autres héroïnes qui, en général, sont écrasées et démolies, où ils montrent alors précisément à quel point la femme dans nos sociétés occidentales est celle qui est paumée, celle qui est toujours, qui est marginalisée. Tandis que Gertrude, d'une certaine façon, n'est pas marginalisée, ou si elle l'est, c'est parce qu'elle se marginalise elle-même en se retirant pratiquement du monde des hommes. En acceptant, en entrant en solitude, comme d'une certaine façon on entre en religion.
Mais c'est peut-être, en fin de compte, c'est un point de vue sur lequel Dreyer ironise, mais qui est peut-être la seule solution possible, en tout cas pour peut-être les femmes, en tout cas les héroïnes dreyeriennes, parce que c'est la seule qui s'en sort intacte.
Alors, il est allé encore un pas plus loin, dans le scénario suivant qui n'a pas pu tourner, qui est Médée, ou alors Médée a non seulement accepté, et n'a pas voulu simplement, comme Gertrude, se retirer du monde des hommes, mais a essayé de se venger du monde des hommes, en tuant les deux fils qu'elle avait eus de Jason.
C'est-à-dire qu'il y a une radicalité, semblerait-il, qui s'approfondit dans les derniers films, dans les personnages de femmes. Et jusqu'au boutiste.
Alors là, justement, avant, c'était des héroïnes passives, tandis que maintenant, dans les derniers films de Dreyer, à partir de Gertrude, et puis Médée, qui, je vous dis, qu'il n'a pas pu réaliser, elles prenaient vraiment maintenant leur destin en main, et elles arrivaient... elles arrivaient à maintenir leur identité malgré la pression sociale qui risquait de les écraser.
Ça peut-être ce sont des héroïnes, en tout cas Gertrude renonce, mais en renonçant, je ne sais pas si elle perd jamais son identité. Et hier dans la salle, il y avait quelqu'un qui demandait si elle n'était pas sadique, masochiste. Je pense que le débat ne se situe pas du tout à ce niveau-là. Par contre, il me semble qu'elle a quand même, il y a quelque chose qui l'a fait tomber physiquement. Et c'est pas un hasard, je crois, c'est la musique. Elle s'évanouit sur le lit de Schumann à un moment précis, et probablement, moi je comprends pas la langue, mais au moment où elle a le sentiment de la perte, qu'il va falloir qu'elle rompe avec son amant.
Oui, ce lit est évidemment est situé en relation avec toute la problématique, où elle chante « Je te pardonne malgré toute la douleur que tu m'as causée ». Et c'est ça qu'elle n'a pas réussi justement à exprimer. C'était trop fort pour elle. Et le personnage de Gertrude est un personnage extrêmement complexe parce que d'une certaine façon, elle est faible. On la voit précisément s'évanouir. Elle est très forte. Elle se reprend.
Profondément fort, parce que je trouve que c'est une espèce de flamme incandescente, Gertrude. On a l'impression qu'elle se consume de l'intérieur complètement et qu'elle irradie en même temps. C'est-à-dire qu'elle a la force de l'irradiation et de la lumière, et en même temps, elle s'éteint petit à petit. Et il y a ça qui est présent physiquement dans le film, dans le traitement même des lumières du personnage.
Oui, mais il faut tout de même constater que Dreyer a voulu terminer son film avec un épilogue qui ne se trouve pas dans la pièce de théâtre, puisque la pièce de théâtre se termine tout simplement par le départ de Gertrude. On ne sait pas où elle part, et avec qui et comment, etc. On imagine qu'elle part seule, mais Dreyer a pu utiliser des renseignements très précis sur la personne qui existait, Maria von Platen, qui est la personne réelle à partir de laquelle Söderberg a écrit sa pièce de théâtre. Cette pièce de théâtre est pratiquement en grande partie autobiographique.
Vous dites que Dreyer est un documentariste et qu'il est très ancré dans le concret. Vous pourriez revenir là-dessus, parce que souvent les raccourcis simples font de Dreyer un cinéaste mystique, ce que je ne crois pas qu'il soit.
Non, Dreyer a toujours travaillé à partir de personnages réels ou de faits divers réels. Je citais hier soir cet exemple de Médée. Il a commencé vraiment à s'intéresser à la pièce de Sophocle, à cette tragédie grecque, parce qu'il a lu dans le journal l'histoire d'une mère qui avait eu le courage, si j'ose dire, de tuer ses deux enfants. Alors, il s'est posé la question, comment peut-il se faire qu'une femme soit dans un tel état de désespoir, soit acculée au meurtre de ses enfants? qu'est-ce qui provoque une telle catastrophe? Alors, c'est à partir de là qu'il a repris la pièce de Sophocle, qu'il a essayé, derrière le texte grec, de retrouver la réalité. Alors, ce qui l'intéressait, ce n'est pas tellement la tragédie grecque en elle-même, mais ça a été ce fait divers, cette histoire extrêmement tragique d'une mère qui assassine ses enfants.
Je crois que le fait de chercher dans le quotidien quelque chose qui est la base sous-jacente des mythes, c'est ça qui est fort chez Dreyer et qui est à l'opposé du naturalisme contre lequel il s'est battu.
Alors, il part toujours de choses extrêmement réelles, mais il les retravaille par un processus qu'il appelle un processus d'abstraction, où on simplifie, on allège le plus possible, et finalement, on garde simplement la quintessence.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a un travail d'épure qui fait que c'est un des cinéastes les plus denses qui soit, avec une charge émotionnelle, je trouve, très forte. Ce n'est pas du tout un cinéaste intellectuel, c'est un cinéaste, je trouve, extrêmement d'émotion. Mais par contre, dans Gertrude, c'est peut-être le film, il faudrait que je revoie peut-être Jour de colère, je ne sais pas, et Vampire, bien sûr, dans lequel on a le plus le sentiment du rêve. Je trouve qu'à la fois, il y a des séquences qui sont en train d'une matérialité, les séquences sont présentes, les personnages sont présents, les dialogues sont là, les décors sont là, mais en même temps, on est au-delà du réel qu'on peut voir sur l'écran, ce qui fait que cette abstraction, on a l'impression qu'il y a quelque chose d'un peu, pas fantomatique, mais d'un peu irréel.
C'est tellement épuré qu'on rejoint pratiquement l'universel, et c'est ça qu'il essaie précisément de faire. C'est évident que ce film est très ancré dans une période donnée, qui est le début du siècle, dans le milieu suédois de Stockholm. C'est la grande bourgeoise suédoise qui s'exprime d'une manière extrêmement épurée et très, très littéraire presque. Mais en même temps, Dreyer fait tout un travail sur le dialogue, sur les images, sur la gestique, pour essayer de retrouver justement quelque chose d'intemporel, d'universel.
Oui, d'ailleurs, il y a ces déplacements des personnages, notamment Gertrude, on dirait qu'elle glisse à pas feutré, comme un signe un peu. C'est-à-dire qu'il y a un travail sur l'acteur, sur tous les acteurs d'ailleurs, c'est étonnant. Enfin, c'est même un des premiers films, je crois, où on voit un homme pleurer.
Oui, et quelquefois même les spectateurs ne le supportent pas, on rigole, parce que là, il va jusqu'à l'extrême limite de ce qu'on peut se permettre de faire et de montrer à l'écran. C'est tellement audacieux. Alors évidemment, quelquefois, ça ne passe pas la rampe. Si on n'est pas en état de réceptivité et si on n'est pas sur la même longueur d'onde que lui, on peut trouver ça assez ridicule. Mais en même temps, il faut reconnaître que c'est très, très audacieux.
Est-ce que le fait que Gertrude n'a pas été appréciée au moment de sa sortie par de nombreux critiques ou historiens qui suivaient l'œuvre de Dreyer, hein, je pense même à des dictionnaires du cinéma qu'on peut lire aujourd'hui, où on suit Dreyer jusqu'à Ordette et on décroche avec Gertrude. Est-ce que, d'après vous, qu'est-ce qui fait qu'il y a eu cette rupture?
C'est qu'on a eu l'impression qu'il en revenait à l'esthétique du muet et au théâtre filmé par rapport auquel il avait toujours pris ses distances. Et c'est ça qui est assez extraordinaire d'ailleurs dans sa carrière, c'est qu'il boucle la boucle. Il a, au début de sa carrière, justement refusé le théâtre filmé, ses longues scènes, et où on enregistrait des dialogues ou des personnages sur la scène, etc. Et il a voulu revenir dans la rue, presque une espèce de néo-réalisme avant la lettre. Et il a écrit des textes extrêmement précis et très forts en disant qu'il fallait que la caméra retourne dans la rue, que c'est absolument ridicule de travailler en studio, pourquoi construire des faux décors, etc., alors qu'on avait des maisons réelles, qu'on avait des vrais arbres, qu'on avait des vrais jardins. et qu'il s'agissait de travailler à partir du réel. Et puis peu à peu, il s'est rendu compte que le naturalisme finalement ne menait à rien, et il a dit un certain nombre d'années plus tard que le naturalisme n'était pas l'art, et que si on désirait justement cultiver l'art, il fallait retrouver l'abstraction, qu'il fallait par conséquent prendre ses distances par rapport à la réalité, retravailler la réalité pour créer de l'art. Et dans Gertrude, justement, il ferme la boucle du fait qu'il en revient à une esthétique tout à fait théâtrale. Et on sent dans toute la carrière de Dreyer qu'il est tiré à U et à Tia, justement, entre ces deux idéaux, ces oppositions entre le théâtre et le cinéma. Ce que j'ai essayé de mettre en valeur, justement, dans l'exposition qu'on vient d'inaugurer il y a quelques jours, Dreyer, les deux aspects de Dreyer, le captif et l'aviateur. Il faut savoir que quand il était journaliste, parce qu'il a commencé sa carrière comme journaliste, il s'était spécialisé comme journaliste d'aviation, de ballons dirigeables, de ballons, de vol en ballon et d'avions. Alors il signait toujours de deux pseudonymes, l'un ou l'autre, captif ou aviateur. Il les avait d'ailleurs choisis en français. Alors le captif, c'est ça, c'est Dreyer, l'homme minutieux, attaché à la réalité, qui ne perd jamais les pédales, qui garde toujours contact avec la réalité charnelle, qui a les deux pieds sur terre, l'homme qui pendant des années et des années va rassembler des fiches, de la documentation pour préparer un scénario. Et puis de l'autre côté, on a l'aviateur, alors c'est l'homme des visions, le visionnaire, celui qui part en plein ciel et qui décolle.
Gertrude va influencer beaucoup de cinéastes. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un héritage?
Dreyer n'a jamais eu de disciple. Personne ne peut l'imiter. Mais je crois qu'il a inspiré indirectement toute une génération de cinéastes et qui reconnaissent d'ailleurs leur dû.
Vous citiez hier Wenders et Duras. Et en revoyant Gertrude, j'ai pensé à le travail de direction de regard d'Olivera.
Oui, bien sûr. Il y a aussi il y a Godard, évidemment. Il y a Jean-Marie Straub. Il y a quantité de jeunes cinéastes qui, doyons, qui reconnaissent que leur dû. On peut citer aussi Lars von Trier, qui connaît toute l'œuvre de Dreyer par cœur, et qui s'en inspire de temps en temps, bien qu'il travaille dans une toute autre direction. Mais enfin, tout de même, Dreyer a marqué et continue à marquer une génération de cinéastes, on ne peut pas l'ignorer.
On pourrait revenir sur des films un peu antérieurs. Alors là, il faut... Bon. Ordette. Si je reviens un peu comme ça en arrière, sur quelques-uns des grands films de Dreyer. Alors, Ordette, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire très rapidement?
Mais je crois que Dreyer a été extrêmement touché quand il a vu la pièce de théâtre dès sa sortie au Danemark, dans les années 30. Et cette pièce a continué à vivre en lui, et il a toujours désiré pouvoir le tourner. Et pourquoi? C'est la question que je me suis posée aussi. C'est parce qu'il s'agit de la résurrection d'une femme qui est morte en couche. Alors, il a évidemment été très très touché personnellement du fait de toute l'histoire à laquelle je viens de faire allusion, l'histoire de sa propre mère qui est morte...
Disloquée.
Alors, cette jeune femme dans Ordette n'a pas pu mettre au monde son enfant de manière normale. L'enfant était mort, était mort-né. Il a fallu déchiqueter l'enfant, déchiqueter la mère, et elle est morte en couche. Et finalement, on arrive tout de même, la force du désir l'a fait ressusciter. C'est le fou et la petite fille qui, de concert, parviennent à faire ressusciter la mère. Dans une scène absolument extraordinaire, c'est la première fois qu'on voit au cinéma la réalisation d'un miracle, sans aucun trucage. Et
Vous dites, si je me rappelle bien dans votre livre à propos de Dreyer, c'est que, et ça Dreyer ne l'ignorait pas, que les médecins avaient avaient déclaré la mort clinique et la religion, la mort, avait donné l'extrême-onction. Donc, à partir du moment où deux institutions telles que l'Église et la médecine avaient décrété la femme morte, il n'était pas possible qu'il en soit autrement pour la société des hommes. Mais, et c'est là tout le miracle d'Ordette, c'est qu'il y a une force qui est au-delà, qui est une pulsion de vie, on pourrait.
Tous les hommes vivent à l'intérieur des maisons. Johannes, le fou, s'évade, sort. La première chose qu'on voit, c'est comment il saute par la fenêtre pour rejoindre la nature. Et on le cherche, on le cherche, on le cherche, on n'arrive pas à le retrouver. C'est le personnage qui vit dans l'espace, dans la grande nature. Et finalement, il revient et c'est lui qui rapporte la vie, qui ressuscite la vie.
C'est un film étonnant parce que je crois que c'est également un des moments émotionnels les plus forts, quoi, la résurrection d'Inger. C'est quelque chose de. Moi qui ne suis pas du tout. Et je crois qu'on n'a pas besoin d'être religieux du tout pour y croire. C'est parce qu'on se rend bien compte que ce n'est pas forcément un miracle de Dieu, mais que ça va quelque part au-delà. C'est une force de vie, vraiment. Et la femme est du côté, vous le disiez tout à l'heure, de la pulsion de vie.
Oui, Marguerite Duras avoue elle-même que chaque fois qu'elle revoit Ordette, elle est bouleversée.
Ne remets pas des films de Dreyer comme ça. Moi, j'avoue qu'hier, j'étais encore. Que ce soit Gertrude ou. Je crois que tous les films de Dreyer sont des films qui marquent. Il n'y a pas beaucoup d'œuvres dans le. Par exemple, il n'y a pas beaucoup de longs métrages dans l'œuvre. Il n'y a que 5 longs métrages dans la période sonore. Mais en importance et en qualité. Ce sont des films qu'on ne peut pas oublier. Ce sont des films clés de l'histoire du cinéma.
Oui, je crois que je suis tout à fait d'accord avec vous. Et ce qui est extraordinaire aussi, c'est que, justement, d'un point de vue stylistique, il ne se répète jamais. Quand on voit, par exemple, Jour de colère, qui est très, très influencé par Rembrandt, par la peinture hollandaise, c'est évident. Et c'est très différent du climat qu'on retrouve dans Ordette.
J'ai l'impression que Dreyer sera peut-être pour finir. Vous disiez tout à l'heure, ce qui prévaut un peu, c'est le théâtre et le cinéma, c'est par rapport à ces deux pôles-là qu'il va se situer. Mais il est complètement, je crois, dans la démarche de ce que je dirais les grands modernes, c'est-à-dire un cinéma qui se confronte sans arrêt à d'autres arts, que ce soit la peinture, que ce soit la musique, et que ce soit évidemment le théâtre.
Oui, c'est vrai, il utilise aussi, justement, il avait lui-même une assez large culture picturale, il connaissait les grands classiques, et il a lui-même découvert un peintre danois qu'on ne connaissait presque pas à l'époque, mais qui vient d'être mis en valeur, qui s'appelle Hammershøi, qui est très très beau, une espèce de Vermeer danois, et que Dreyer, à ce moment-là, considérait comme un maître. Et personne, enfin il était à peu près complètement oublié au moment où Dreyer justement l'utilisait comme une de ses sources pour la composition de ses images.
Thank you. Jean-Luc Godard avait coutume de dire que Gertrude était aussi beau que les dernières œuvres de Beethoven. Alors j'ai pensé, pour faire une transition, à un court extrait d'une œuvre de Beethoven, le trio à cordes, donc un très court extrait, trio à cordes en ré majeur, qui était ici joué par Emmanuel Feuermann au violoncelle, Simon Goldberg au violon et Paul Hindemith à la